Radio Vatican présente Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Troisième chapitre. Penser et gérer un monde ouvert.
Un être humain est fait de telle façon qu'il ne se réalise, ne se développe, ni ne peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-même. Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité, si ce n'est dans la rencontre avec les autres. Je ne communique effectivement avec moi-même que dans la mesure où je communique avec l'autre. Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de l'existence humaine authentique, car la vie subsiste là où il y a un lien, la communion, la fraternité. Et c'est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche, il n'y a pas de vie là où on a la prétention de n'appartenir qu'à soi-même et de vivre comme des îles. Dans ces attitudes, la mort prévaut.
Plus loin.
À partir de l'intimité de chaque cœur, l'amour crée des liens et élargit l'existence s'il fait sortir la personne d'elle-même vers l'autre. Fait pour l'amour, nous avons en chacun d'entre nous une loi d'extase, sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d'être. Voilà pourquoi l'homme doit de toute manière mener à bien cette entreprise, sortir de lui-même.
Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma propre famille, car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large. Non seulement mon réseau actuel, mais aussi celui qui me précède et me façonne tout au long de ma vie. Ma relation avec une personne que j'apprécie ne peut pas méconnaître que cette personne ne vit pas seulement à cause de ses liens avec moi, ni que moi, je ne vis pas uniquement en référence à elle. Notre relation, si elle est saine et vraie, nous ouvre à d'autres qui nous font grandir et nous enrichissent. Le sens social le plus noble est aujourd'hui facilement réduit à rien en faveur de liens égoïstes épousant l'apparence de relations intenses. En revanche, l'amour authentique, à même de faire grandir, et les formes les plus nobles d'amitié résident dans des cœurs qui se laissent compléter. Le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes, de sorte que nous accueillions tout le monde. Les groupes fermés et les couples autoréférentiels qui constituent un « nous » contre tout le monde sont souvent des formes idéalisées d'égoïsme et de pure autopréservation.
Ce n'est pas pour rien que de nombreuses petites villes survivant dans les zones désertiques ont développé une capacité généreuse d'accueil des pèlerins de passage et ont forgé le devoir sacré de l'hospitalité. Les communautés monastiques médiévales en ont fait également montre, comme en témoigne la règle de Saint-Benoît. Même si cela pouvait compromettre l'ordre et le silence des monastères, Benoît exigeait que les pauvres et les pèlerins soient traités avec le plus grand soin et la plus grande sollicitude. L'hospitalité est une manière concrète de ne pas se priver de ce défi et de ce don qu'est la rencontre avec l'humanité, indépendamment du groupe d'appartenance. Ces personnes comprenaient que toutes les valeurs qu'elles pouvaient cultiver devaient s'accompagner de cette capacité à se transcender dans une ouverture aux autres.
La valeur unique de l'amour.
Les gens peuvent développer certaines attitudes qu'ils présentent comme des valeurs morales, force, sobriété, assiduité et autres vertus. Mais pour bien orienter les actes correspondant aux différentes vertus morales, il faut aussi se demander dans quelle mesure ils créent un dynamisme d'ouverture et d'union avec les autres. Ce dynamisme, c'est la charité que Dieu répand. Autrement, nous ne cultiverions peut-être que l'apparence de vertu, incapable de construire la vie en commun. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, citant Augustin, affirmait que la tempérance d'une personne avare est loin d'être vertueuse. Saint Bonaventure, en d'autres termes, expliquait que les autres vertus, sans la charité, n'accomplissent pas strictement les commandements comme Dieu les entend.
La teneur spirituelle d'une vie humaine est caractérisée par l'amour qui est, somme toute, le critère pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d'une vie humaine. Cependant, il y a des croyants qui pensent que leur grandeur réside dans l'imposition de leurs idéologies aux autres, ou dans la défense violente de la vérité, ou encore dans de grandes manifestations de force. Nous, croyants, nous devons tous le reconnaître, l'amour passe en premier. Ce qui ne doit jamais être mis en danger, c'est l'amour. Le plus grand danger, c'est de ne pas aimer.
Afin de clarifier en quoi consiste l'expérience de l'amour que Dieu rend possible par sa grâce, saint Thomas d'Aquin la définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre en l'identifiant avec soi-même. L'attention affective qui est portée à l'autre conduit à rechercher son bien gratuitement. Tout cela fait partie d'une appréciation, d'une valorisation qui est finalement ce qu'exprime le mot « charité ». L'être aimé, mais cher, c'est-à-dire qu'il est estimé d'un grand prix. Et c'est de l'amour qu'on a pour une personne que dépend le don qu'on lui fait.
L'amour implique donc plus qu'une série d'actions bénéfiques. Les actions jaillissent d'une union qui fait tendre de plus en plus vers l'autre, le considérant précieux, digne, agréable et beau, au-delà des apparences physiques ou morales. L'amour de l'autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n'est qu'en cultivant ce genre de relation que nous rendrons possible une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous.
L'ouverture croissante de l'amour.
L'amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n'atteint sa plénitude en s'isolant. De par sa propre dynamique, l'amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d'appartenance mutuelle. Jésus nous disait « Tous, vous êtes des frères ».
Ce besoin d'aller au-delà de ses propres limites vaut également pour les diverses régions et pays. De fait, le nombre toujours croissant d'interconnexions et de communications qui enveloppent notre planète rend plus palpable la conscience du partage d'un destin commun entre les nations de la Terre. Dans les dynamismes de l'histoire, de même que dans la diversité des ethnies, des sociétés et des cultures, nous voyons ainsi semer la vocation à former une communauté composée de frères qui s'accueillent réciproquement en prenant soin les uns des autres.
Sociétés ouvertes qui intègrent tout le monde.
Certaines périphéries sont proches de nous, au centre d'une ville ou dans notre propre famille. Il y a aussi un aspect de l'ouverture universelle de l'amour qui n'est pas géographique, mais existentiel. C'est la capacité quotidienne d'élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt, même s'ils sont proches de moi. Par ailleurs, chaque sœur ou frère souffrant, abandonné ou ignoré par ma société, est un étranger existentiel, même s'il est natif du pays. Il peut s'agir d'un citoyen possédant tous les papiers, mais on le traite comme un étranger dans son propre pays. Le racisme est un virus qui mute facilement et qui, au lieu de disparaître, se dissimule, étant toujours à l'affût.
Je voudrais faire mémoire de ces exilés cachés qui sont traités comme des corps étrangers dans la société. De nombreuses personnes porteuses de handicap sentent qu'elles existent sans appartenance et sans participation. Il y en a encore beaucoup d'autres qu'on empêche d'avoir la pleine citoyenneté. L'objectif, ce n'est pas seulement de prendre soin d'elles, mais qu'elles participent activement à la communauté civile et ecclésiale. C'est un chemin exigeant mais aussi difficile qui contribuera de plus en plus à former les consciences, à reconnaître chaque individu comme une personne unique et irremplaçable. Je pense aussi aux personnes âgées qui, notamment en raison de leur handicap, sont parfois perçues comme un fardeau. Cependant, chacune d'entre elles peut apporter une contribution irremplaçable au bien commun à travers son parcours de vie original. Je me permets d'insister, il faut avoir le courage de donner la parole à ceux qui subissent la discrimination à cause de leur handicap, parce que malheureusement dans certains pays, on peine aujourd'hui encore à les reconnaître comme des personnes de dignité égale.
Compréhensions inadéquates d'un amour universel.
L'amour qui s'étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons l'amitié sociale dans chaque ville ou dans chaque pays. Lorsqu'elle est authentique, cette amitié sociale au sein d'une communauté est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle vraie. Il ne s'agit pas du faux universalisme de celui qui a constamment besoin de voyager parce qu'il ne supporte ni n'aime son propre peuple. Celui qui a du mépris pour son propre peuple établit dans la société des catégories de première ou de deuxième classe, de personnes ayant plus ou moins de dignité et de droits. De cette façon, il nie qu'il y a de la place pour tout le monde.
Je ne propose pas non plus un universalisme autoritaire et abstrait conçu ou planifié par certains et présenté comme une aspiration prétendue pour homogénéiser, dominer et piller. Il existe un modèle de globalisation qui soigneusement vise une uniformité unidimensionnelle et tente d'éliminer toutes les différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle d'unité. Si une globalisation prétend tout aplanir, comme s'il s'agissait d'une sphère, cette globalisation détruit la richesse ainsi que la particularité de chaque personne et de chaque peuple. Ce faux rêve universaliste finit par priver le monde de sa variété colorée, de sa beauté et en définitive de son humanité. En effet, l'avenir n'est pas monochromatique, mais est possible si nous avons le courage de le regarder dans la variété et dans la diversité de ce que chacun peut apporter. Comme notre famille humaine a besoin d'apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix, sans que nous ayons besoin d'être tous pareils.
Transcender un monde de partenaires.
Revenons maintenant à cette parabole du bon samaritain qui a encore beaucoup à nous enseigner. Un homme blessé gisait sur le chemin. Les autorités qui l'ont croisé n'avaient pas fixé leur attention sur cet appel intérieur à devenir proche, mais sur leur fonction, sur leur position sociale, sur une profession fondamentale dans la société. Elle se sentait importante pour la société du moment et leur urgence était le rôle qu'elle devait jouer. L'homme blessé et abandonné sur la route était une gêne pour ce projet, une entrave, et par ailleurs, il n'assumait aucune fonction. Il n'était rien. Il n'appartenait pas à un groupe renommé, il n'avait aucun rôle dans la construction de l'histoire. Cependant, le généreux samaritain a résisté à ces classifications étriquées, même s'il n'appartenait à aucune de ces catégories, et était un simple étranger, sans place spécifique dans la société. Ainsi, libre de tout titre et de toute charge, il a été en mesure d'interrompre son voyage, de changer de projet, d'être disponible pour s'ouvrir à la surprise de l'homme blessé, qui avait besoin de lui.
Quelle réaction une telle narration peut-elle provoquer aujourd'hui dans un monde où apparaissent et grandissent constamment des groupes sociaux qui s'accrochent à une identité qui les sépare des autres? Comment peut-elle toucher ceux qui ont tendance à s'organiser de manière à empêcher toute présence étrangère susceptible de perturber cette identité et cette organisation autoprotectrice et autoréférentielle? Dans ce schéma, la possibilité de se faire prochain est exclue, sauf de celui par qui on est assuré d'obtenir des avantages personnels. Ainsi, le terme « prochain » perd tout son sens, et seul le mot « partenaire », l'associé pour des intérêts déterminés, a du sens.
Liberté, égalité et fraternité.
La fraternité n'est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni même d'une certaine équité observée. Bien qu'il s'agisse de présupposés qui la rendent possible, ceux-ci ne suffisent pas pour qu'elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l'égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, sans une volonté politique de fraternité, traduite en éducation à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l'enrichissement mutuel comme valeur? Ce qui se passe, c'est que la liberté s'affaiblit, devenant ainsi davantage une condition de solitude, de pure indépendance pour appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, ou simplement pour posséder et jouir. Cela n'épuise pas du tout la richesse de la liberté, qui est avant tout ordonnée à l'amour.
On n'obtient pas non plus l'égalité en définissant dans l'abstrait que tous les êtres humains sont égaux, mais elle est le résultat d'une culture consciente et pédagogique de la fraternité. Ceux qui ne peuvent être que des partenaires créent des cercles fermés. Quel sens peut avoir dans ce schéma une personne qui n'appartient pas au cercle des partenaires et arrive en rêvant d'une vie meilleure pour elle-même et sa famille?
L'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Elle ne peut même pas nous préserver de tant de maux qui prennent de plus en plus une envergure mondiale. Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles, nous pouvions construire le bien commun.
Amour universel qui promeut les personnes.
Il est quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale et la fraternité universelle. Réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur, il faut dire clairement et fermement que le seul fait d'être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité. Il s'agit d'un principe élémentaire de la vie sociale qui est souvent ignoré de différentes manières par ceux qui estiment qu'il n'apporte rien à leur vision du monde ni ne sert à leur fin.
Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement. Et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit, même s'il n'est pas très efficace, même s'il est né ou a grandi avec des limites. Car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne humaine, qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la valeur de son être. Lorsque ce principe élémentaire n'est pas préservé, il n'y a d'avenir ni pour la fraternité, ni pour la survie de l'humanité.
Certaines sociétés acceptent en partie ce principe. Elles acceptent qu'il existe des possibilités pour tout le monde, mais en déduisent que tout dépend de chacun. Dans cette perspective partielle, il serait absurde de s'investir afin que ceux qui restent en arrière, les faibles ou les moins pourvus, puissent se faire un chemin dans la vie. Investir en faveur des personnes fragiles peut ne pas être rentable. Cela peut impliquer moins d'efficacité. Cela requiert un État présent et actif, ainsi que des institutions de la société civile qui, du fait qu'elles sont vraiment ordonnées d'abord aux personnes et aux biens communs, aillent au-delà de la liberté des mécanismes axés sur l'efficacité de certains systèmes économiques, politiques ou idéologiques.
Radio Vatican vous a présenté Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Avec les voix de Manuela Affigi, Muando Babualo, Olivier Bonnel, Marie Duhamel, Xavier Sartre, Cyprien Viet
et Jean-Charles Puzolu.
Assistance technique de Roberto Colangeli et Mario Scaton. Une production Radio Vatican en collaboration avec la Libreria Editrice Vaticana.